Chapitre 6e. Les deux étrangers, après avoir quitté l'aubergiste, disparurent pendant un quart d'heure environ pour se concerter, puis ils se dirigèrent comme de curieux oisifs vers la poste aux chevaux, à la porte de laquelle était restée la voiture du voyageur. Ils se préparaient sans doute à repartir, car un postillon s'occupait déjà d'atteler les chevaux. Le capitaine Russell et son compagnon s'approchèrent de la voiture, qui, se trouvant ainsi entre eux et l'auberge de l'Aigle impérial, les masquait complètement du côté des fenêtres de l'hôtel. S'asseyant alors sur l'un des bancs de pierre placés latéralement à la porte du relais, les deux étrangers parurent examiner d'un œil connaisseur les chevaux que l'on attelait. « Mon brave, vous avez là pour porteur un cheval qui doit être aussi bon qu'il est beau, » dit enfin Russell au postillon après quelques minutes d'examen. « J'ai rarement vu un animal d'une apparence plus vigoureuse. Hey, »« Hé, sarpejeux, sa mine n'est pas trompeuse. Allez, mon bourgeois, » répondit le postillon, flatté de la louange méritée que l'on donnait à son cheval. « Il tient ce qu'il promet. Aussi je l'ai baptisé le Carme, et il est digne de son nom. Allez, le gredin !»« En vérité, » reprit Russell, « je n'en reviens pas. Quel bel animal, quel poitrail, quel garrot, quelle hanche !»« Et quelle jolie tête !» reprit Pietri. « Elle est fine et carrée, comme celle d'un cheval arabe. » « Oh oh !» reprit le postillon. « On voit bien, mes bourgeois, que vous êtes connaisseurs. Aussi, vous me croirez quand je vous dirai qu'avec le Carme et le sans-culotte, c'est mon mallier que j'appelle comme ça. Nous arrachons au petit galop une montée d'un quart de lieue. Ça ne m'étonne pas, mon brave, et ça doit être un vrai plaisir d'avoir un pareil cheval entre les jambes. Je crois bien, car il vous a des allures d'une douceur, ah !» reprit le postillon avec jubilation, « un vrai bateau. J'irai avec le Carme d'ici à Rome. » Quoique marin, j'ai assez souvent monté à cheval, reprit l'anglais, mais je n'ai jamais eu le bonheur d'enfourcher un pareil cheval. Fichtre, je le crois bien, bourgeois, et je peux vous garantir que vous n'en enfourcherez jamais un pareil. C'est dommage. Dame, qu'y faire? Mon brave. Voulez-vous gagner 40 francs? Reprit l'anglais après un moment de silence. 40 francs? Dit le postillon ébahi. Gagner 40 francs, moi? Oui. Et comment diable cela, bourgeois? D'une manière bien simple. Voyons la manière. Au moment où l'anglais allait faire sa proposition, un garçon de l'auberge traversa la rue et vint dire au postillon « Tu n'as pas besoin de te presser, Jean-Pierre, car le bourgeois de ce berlingot n'est pas prêt de descendre. » « À quoi qu'il s'amuse donc, ce lambin-là ? » reprit le postillon. « Pourquoi donc alors qu'il fait demander ses chevaux si fort à l'avance ? » « Est-ce que je sais ? » reprit le garçon. « Ça a l'air d'être une vraie poule mouillée. Au lieu de vin, il boit du lait coupé. » Et il a dîné avec une panade et des œufs à la mouillette. « De la panade et pas de vin ? Voilà un particulier jugé, » dit sentencieusement Jean-Pierre. Puis il reprit. « Ah ça, tu me fais bavarder, toi, et oublier, » s'adressant alors à Russell. « Dites donc, bourgeois, tout à l'heure vous me proposiez de me faire gagner. » L'anglais fit un signe d'intelligence au postillon, lui montrant du regard le garçon d'auberge, et lui dit à mi-voix. « Venez dans la cour de la poste, mon brave. Je veux vous dire deux mots. »« Impossible de laisser le Carme tout seul, mon bourgeois. Il en ferait de belles avec le sans-culotte. Tenez, le gueusard, voulait déjà qu'il commence, » ajouta Jean-Pierre en se rapprochant de ses chevaux qui hennissaient et se gabraient. « Ohé, le Carme » cria-t-il. « Attention, brigand, si tu t'émancipes, je te vas caresser. »« Eh bien, écoutez. » reprit l'anglais en se penchant à l'oreille du postillon et lui parlant tout bas pendant quelques instants. « Ah bon ? » reprit le postillon en riant. « Voilà une drôle d'idée. Voyons, mon brave, acceptez-vous ? Ma foi, si vous acceptez, voici 20 francs. Vous aurez là-bas l'autre pièce d'or. Après tout, que risquez-vous ? Il n'y a aucun mal à cela. » « Aucun, sarpejeux. Mais c'est bien là une idée, une vraie fantaisie de marin. Je connais ça. J'étais à la poste de Dieppe. Fallait voir les corsaires quand ils avaient touché leur part de prise, comme, pour un oui ou pour un non, ils vous faisaient galoper l'argent. J'en ai vu qui ont offert jusqu'à 25 napoléons à un vieux sacristain bossu pour le laisser habiller en femme avec un chapeau à plumes et une robe à falbala, et se faire trimballer en fiacre avec eux et leur margot. « Que voulez-vous, mon brave ? » reprit Russell en souriant. « les marins ne sont pas déjà si souvent à terre pour ne pas se passer leur petite fantaisie quand ça se peut, sans nuire à personne. Pardieu, c'est bien le moins. Allons, est-ce convenu ?
Bah, reprit le postillon, avec un particulier pareil à celui que je vais trimballer, une pratique qui ne boit pas de vin et qui mange de la panade, il n'y a pas à se gêner. Et d'ailleurs, il n'y verra que du feu. C'est convenu, bourgeois.
Voici 20 francs, reprit Russell, en mettant la pièce d'or dans la main du postillon. Vous en aurez autant plus tard.
Bon, mais dépêchez-vous, car il y a d'ici là-bas près d'une lieue.
C'est égal, je vous donnerai le temps d'arriver. Si mon mangeur de panade trouve que je bats trop doucement, je lui dirai que le sans-culotte a des cors aux pieds. Allez vite, bourgeois, prenez la ruelle à gauche, et vous vous trouverez en pleine grande route.
En un instant, les deux étrangers eurent disparu. Au bout d'un quart d'heure environ, pendant lequel le postillon eut fort à faire pour contenir les ébats du carme et de son compagnon, l'aubergiste de l'Aigle impérial parut à sa porte et cria au postillon
« Allons, mon garçon, à cheval, à cheval. Voici le maître de la voiture. »
« Diable !» se dit Jean-Pierre en se mettant très lentement en selle. « Il vient bientôt, ce buveur de lait coupé. Mes deux gaillards n'auront pas le temps d'arriver jusqu'à la montée. »
Ce disant, le postillon avait conduit la voiture jusqu'à la porte de l'auberge. L'hôtelier s'empressa d'abaisser le marchepied devant le voyageur et de refermer la portière lorsque celui-ci fut monté. Après quoi, ôtant son bonnet, l'hôtelier salua respectueusement son client et dit au postillon «
Bon train, Jean-Pierre, monsieur est très pressé. »
« Je vais vous mener ça à voile d'oiseau, mon bourgeois, » reprit Jean-Pierre en faisant bruyamment claquer son fouet. Et partant au galop, il traversa rapidement le bourg et atteignit bientôt la grande route. Mais au bout de 200 pas, il arrêta brusquement ses chevaux, se retourna sur sa selle et attendit. Le voyageur, surpris de cet arrêt, baissa une des glaces et dit
« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? »
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
« Oui, je ne sais pas, moi. »«
Comment tu ne sais pas ? » ?»«
Mais dame, non. Pourquoi t'arrêtes-tu ? » ?»«
Vous m'avez crié, arrête. »«
Moi ? » ?»«
Oui, bourgeois. Et alors je me suis arrêté. » »«
Tu te trompes, mon garçon, je ne t'ai pas appelé. » »«
Si, bourgeois. » »«
Je dis que non. » »«
Si, bourgeois, parole d'honneur. » »«
Vous ne vous en serez pas aperçu. » »«
Encore une fois, tu te trompes. » « Allons en route, mon garçon, et regagnons le temps perdu. »«
Soyez tranquille, bourgeois, je vais enlever ça à tout briser. »« Je ne veux pas qu'il reste un morceau de votre voiture en arrivant au relais. »
Et le postillon repartit au grand galop. Mais au bout de 200 pas parcourus d'un train désordonné, nouvelle et brusque arrêt.
« Eh bien ?» dit la voix du voyageur.
« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»«
Nom d'un nom de 1000 milliards de noms de tonnerre de Dieu !»
s'écria Jean-Pierre en descendant de cheval et en continuant d'éclater en imprécations furibondes tout en feignant d'ajuster les traits de corde fixés au palonnier.
« Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé à tes harnais ?»«
Nom d'un nom de nom !»«
Ton cheval est-il déferré ?»«
Nom d'un nom de nom !»«
Apprends-moi au moins ce qui t'arrive, mon garçon !»«
Faites pas attention, ce n'est rien, bourgeois. C'est mon grenin de Mallier qui a rué dans ses traits. Il me faut le temps de le dépêtrer. »
« C'est un petit malheur, » dit placidement le voyageur. « Tâche au moins que cela n'arrive plus. »«
Nous allons filer comme des hirondelles, bourgeois, » reprit Jean-Pierre en se remettant en selle. Puis il ajouta, à part soi,
« Mangeur de panade, va, quel serin. Voilà ce que c'est que de boire du lait coupé. Parole d'honneur, ça fait de la peine. »
Et le drôle repartit au galop en faisant claquer son fouet avec furie. La nuit commençait à venir. Quelques étoiles scintillaient déjà vers l'Orient, et le soleil, couché depuis un quart d'heure, ne jetait plus qu'une lueur crépusculaire sur laquelle les grands arbres de la route dessinaient leurs noirs branchages. Au loin, ébornant l'horizon de la route, on pouvait apercevoir, grâce à la réverbération blanchâtre d'un sol crayeux, une montée rapide, bordée d'ormes immenses, dont les cimes encore dépouillées de feuilles formaient presque le berceau. Au-delà de cette voûte naturelle, on voyait au milieu d'un ciel clair et bleu se dessiner le croissant de la lune. La chaise de poste roulait rapidement depuis 10 minutes, et le postillon faisait de temps à autre, et comme à dessein, retentir les échos des claquements de son fouet, lorsque peu à peu l'allure de ses chevaux se ralentit. Le trot succéda au galop, le pas remplaça le trot, et enfin la voiture s'arrêta net. Jean-Pierre descendit de cheval,
examina un des pieds de Deria de son porteur et s'écria
« Mille noms de noms de noms ! Voilà un de mes chevaux qui boite maintenant.
« Hein ? Il boite ?» dit la voix du voyageur avec un calme inaltérable. Quoique ses temps d'arrêt multipliés fussent capables de faire comme, on dit vulgairement, d'année un saint.
« Hein ? Il boite. »«
Il boite à mort !»
reprit Jean-Pierre, tenant toujours entre ses deux mains le pied du cheval. « Et comment cette boiterie lui est-elle venue si vite, mon garçon ?
Que le diable m'emporte, si je le sais.
Nous allons donc rester en route.
Non, bourgeois, il n'y a pas de risque.
Si je pouvais seulement voir ce qui fait boiter mon mallier.
Mais la nuit commence à être noire.
Très noire, dit la voix.
Il ne faudra pas oublier d'allumer les lanternes au prochain relais.
Ah, je sens ce que c'est avec mon doigt, reprit le postillon.
C'est une pierre engagée entre le fer et la fourchette. Si je peux l'ôter, ça ne sera rien.
Tâche, mon garçon, car sans reproche, nous jouons de malheur,
répondit la voix toujours impassible du voyageur.
Cependant, le postillon, maugré tout haut après la pierre qu'il ne pouvait parvenir à extraire, criait-il, en riant soucable du bon succès de sa ruse, calculant qu'il avait suffisamment donné d'avance aux deux étrangers pour qu'ils eussent pu gagner le rendez-vous convenu. Aussi le drôle poussa-t-il bientôt un cri de triomphe en disant
« Enfin, la voici enlevée, la maudite pierre. Maintenant, nous allons marcher à vol d'oiseau. »
Et la voiture repartit avec une nouvelle rapidité. La nuit était complètement venue, mais grâce à la limpidité du ciel, au scintillement des étoiles, il régnait une vague clarté. Le postillon atteignit cette fois tout d'un trait le bas de la montée. Là seulement, il arrêta ses chevaux essoufflés, et mettant pied à terre, il s'approcha de la portière et dit au voyageur
« Nous voici arrivés à une fameuse côte, bourgeois. Je vais marcher auprès de mes chevaux afin de les soulager. Ça fait qu'une fois là-haut, je serai tout prêt à enrayer pour la descente, qui n'est pas commode.
« Bien, mon garçon, » répondit la voix. Le postillon resta en effet durant quelques instants à côté de ses chevaux, mais ralentissant peu à peu sa marche, pendant que l'attelage gravissait lentement la côte, Jean-Pierre laissa la voiture passer devant lui. À ce moment, Russell et Pietri sortirent d'un taillis qui longeait la route et s'approchèrent rapidement du postillon. Celui-ci, tout en marchant, ôta son chapeau galonné, sa veste à collet rouge et ses bottes fortes. L'Anglais, s'étant à son tour dépouillé de sa houppelande de marin, passa la veste, mit le chapeau ciré et enfonça ses jambes dans les bottes fortes. Le postillon, souriant d'un air très satisfait de ce qu'il regardait comme une plaisante fantaisie, remit son fouet à Russell et lui dit
« J'en reviens toujours là, c'est une drôle d'idée que la vôtre. Vraie idée de marin en ribote, quoique vous n'y soyez pas. Que voulez-vous, mon brave ? J'adore les chevaux et j'aurai le plus grand plaisir à monter pendant un quart d'heure votre beau et vigoureux cheval. C'est un caprice bien innocent, n'est-ce pas ?
Pardieu !
Quel mal cela fait-il au mangeur de panade qui est dans le berlingot ? En voilà un qui a de la patience. Il m'en impatientait moi-même. Faut qu'il ait du sang de macreuse dans les veines.
« Ah, vous croyez ?» dit Russell en se rapprochant de la voiture.
« Ça doit être quelque épicier en demi-solde et pas méchant. Allons, bourgeois, vous allez monter à cheval à ma place. La nuit est noire, ce buveur de lait coupé ne s'apercevra de rien. Je m'assoirai derrière le berlingot avec votre camarade. À une demi-lieue du relais, il y a une autre montée.
« À cet endroit, » dit Russell, « je descendrai. Vous reprendrez vos habits, moi les miens, et tout sera dit. »
« Maintenant, mon ami, voici les 20 francs promis. »
Et mettant la pièce d'or dans la main de Jean-Pierre, Russell doubla le pas, atteignit les chevaux à une vingtaine de pas du faîte de la montée et se mit à marcher à côté d'eux. La nuit était assez obscure pour que le voyageur ne pût s'apercevoir de la substitution de personnes qui venaient de s'opérer. Il ne s'était d'ailleurs nullement étonné de voir, ainsi que cela arrive souvent, le postillon abandonné pendant quelques instants ses chevaux à eux-mêmes, durant une montée rapide. Seulement, lorsque la voiture fut sur le point d'atteindre le point culminant de la côte, le voyageur dit au postillon
« Mon garçon, n'oublie pas de bien assurer le sabot d'enrayage. »
« J'y vais, »
répondit le faux postillon à demi-voix. Puis, passant derrière la voiture, il dit tout bas au Maltais et à Jean-Pierre
« Asseyez-vous sur la palette de derrière et tenez-vous bien, je vais enrayer. »
Les deux hommes s'assirent à l'endroit désigné, se tenant des mains aux courbes de fer des ressorts, pendant que Russell, faisant bruire la chaîne du sabot en le décrochant, simulait l'enrayage,
mais laissait le sabot de côté au lieu d'y engager la roue.
L'Anglais remonta le rancel, enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval et lança la voiture dans la descente avec une effrayante rapidité.
Nom d'un nom, nous sommes fichus. Et le mangeur de panade par-dessus le marché,
s'écria Jean-Pierre en entendant la chaîne et le sabot de fer bondir sur le pavé.
Votre camarade a mal enrayé.
Le Maltais, au lieu de répondre au postillon, lui asséna sur la tête un si violent coup de crosse de pistolet que Jean-Pierre abandonna le ressort qu'il tenait d'une main et tomba sur la route pendant que la voiture disparaissait dans la descente au milieu d'un nuage de poussière.